Vous écoutez, on lit pour vous.
Trump, le paradis et l'angoisse de la mort. Un texte de Boukhar Diouf, paru le 28 février 2026 dans la presse. Dans nos sociétés capitalistes, accumuler de l'argent peut devenir une façon d'apaiser l'angoisse face à la mort. En cause, la fortune aiguise la confiance en soi et donne le sentiment d'être respecté, adulé, courtisé et désiré. Même si le riche danse comme un pied, disaient nos anciens, c'est à l'orchestre que les spectateurs reprocheront de ne pas être à la hauteur de son talent. Chez certains, l'argent, explique le neuroscientifique Sébastien Boller dans « Où est le sens ?», remplace le besoin ancestral du collectif chez les animaux sociaux que nous sommes. En termes physiologiques, dit-il, dans une partie de notre cerveau appelée le cortex singulaire, l'argent peut remplacer Dieu. C'est peut-être pour cette raison qui relève de la concurrence que la richesse a été diabolisée par la religion catholique, du moins celle qui n'était pas redirigée vers les coffres du Vatican. Aussi, comme nous le démontrent les révélations sur les dossiers Epstein, la richesse sans sagesse donne aussi parfois un sentiment inébranlable de toute puissance et d'impunité. Autrement dit, même si Donald et les ultra-riches qui gravitaient autour de Jeffrey Epstein partagent avec nous la conscience de leur finitude, la partie de leur cerveau qui engrange des milliards les empêche de réaliser qu'ils moissonnent pour leurs héritiers. Écartelés entre les trois divinités que sont l'argent, le pouvoir politique et le grand Dieu pour lequel ils vendent des Bibles, le président américain me donne parfois l'impression de douter de son jugement final. En novembre 2025, on l'a entendu dire sur la chaîne Fox News que depuis qu'il a survécu à une tentative d'assassinat, il n'arrête pas de réfléchir sur son but sur la terre et après la mort. Dieu et le paradis s'invitent plus régulièrement dans ses réflexions. En août 2025, lors d'une interview sur Fox News, on a entendu M. Trump plaisanter sur ses chances d'aller au ciel en ces termes. « Je veux essayer d'aller au paradis si possible. J'entends dire que je ne suis pas bien placé, que je suis vraiment au bas de l'échelle. Mais si j'arrive à aller au paradis, ce sera l'une des raisons. » Il insinuait ici que mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait peut-être aider sa cause. À mon avis, mettre ses chances d'aller au paradis entre les mains d'un prédateur sanguinaire du calibre de Vladimir Poutine n'est pas l'idée du siècle. Que l'on soit croyant ou pas, il est difficile de penser que Donald ira au paradis. Chose certaine, ce que Donald Trump voit dans le rétroviseur de sa vie ne le rassure pas et il exprime cette angoisse sans retenue. En octobre 2025, il a aussi ironisé sur le sujet et sa conclusion était tout aussi pessimiste. Il était à bord d'Air Force One quand il a dit que rien ne pourrait le faire entrer au paradis. Peut-être aussi avait-il ajouté, de façon lucide, qu'il n'était simplement pas destiné à y aller. Je parle de lucidité, car Donald Trump connaît plus que quiconque ce que contient son panier de mauvaises actions. Ses doutes semblent motivés par des raisons bien plus profondes que son côté satanique qu'il expose à la lumière du jour. Ce qui le rend incertain est probablement dans une partie cachée de l'iceberg de sa vie, peut-être aussi dans les fichiers inaccessibles des dossiers Epstein. Il y a des choses qu'il cherche à se faire excuser lorsqu'il lie son accession au paradis à toutes ces guerres qu'il répète avoir arrêtées. Parmi les autres outils de négociation du président Trump avec son Seigneur, il y a aussi sa création d'un bureau de la foi à la Maison-Blanche et sa commission sur la liberté religieuse. Il collectionne les arguments pour pouvoir signer un bon accord avec son Dieu. Lors de son récent discours sur l'état de l'Union, il a tenu à rappeler à son Créateur qu'en Amérique, la religion, la foi, le christianisme et la croyance en Dieu retournaient, particulièrement chez les jeunes, à des niveaux que personne ne pensait possibles. Poussé par l'autre culte qui l'habite plus profondément, celui de la personnalité, il essaie aussi de trouver des chemins de contournement pour accéder autrement à cette vie éternelle. Comment? En essayant de graver son nom dans le patrimoine bâti américain. Des exemples. Il a donné son nom à un boulevard dans West Palm Beach. Une législature de Floride se prépare à donner son nom au Palm Beach International Airport. Il a rebaptisé le Kennedy Center pour y glisser son nom. Une nouvelle classe de navires de guerre de la marine américaine portera son nom. On entend dire qu'il souhaite que l'aéroport de Washington Dulles et le nouveau stade des Washington Commanders portent son nom. Il aurait exprimé le souhait que la gare de Manhattan, Penn Station, porte également son nom, etc. Que dire aussi de l'arc monumental qu'il veut ériger à sa propre gloire à Washington? Malheureusement pour lui, plus que les patronymes qu'on impose sans pudeur, la mémoire collective aime mieux les belles traces laissées dans les cœurs. Toutes ces constructions, portant son nom, vont survivre à son corps. Mais elles vont aussi l'exposer de façon posthume au jugement de l'histoire. On peut graver son nom en lettres d'or sur le monde, mais c'est au monde que reviendra l'ultime privilège d'inscrire sa vérité sur son nom. C'était « Trump, le paradis et l'angoisse de la mort », un texte de Boucard Diouf, paru le 28 février 2026 dans La Presse.
Les inégalités économiques croissantes pavent la voie à la montée des autoritarismes. Un texte de Jonathan Martineau, paru le 29 janvier 2026 dans La Conversation. En concentrant la richesse et le pouvoir entre les mains d'une minorité, le système économique dominant fragilise les démocraties et ouvre la voie aux autoritarismes, révèle le dernier rapport d'Oxfam, publié la semaine du 19 janvier en marge de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, un choix de calendrier loin d'être anodin. Alors que les élites économiques et politiques mondiales s'y réunissaient pour débattre du nouvel ordre mondial et de stratégies pour diversifier les marchés et maintenir la croissance économique mondiale à flot, le rapport d'Oxfam dresse quant à lui un constat accablant. Le système économique dominant produit des niveaux d'inégalité sans précédent historique. Loin d'être des anomalies conjoncturelles, ces inégalités apparaissent comme le symptôme structurel d'un modèle économique fondé sur l'exploitation dont les effets menacent de plus en plus la stabilité démocratique à l'échelle mondiale. Professeur de philosophie au Liberal Arts College de l'Université Concordia, mes recherches portent sur le temps, la technologie et l'économie politique du capitalisme contemporain. Un système inégalitaire. Le rapport souligne d'abord l'extrême concentration de la richesse. Les 12 milliardaires les plus riches de la planète possèdent aujourd'hui une richesse équivalente à celle détenue par la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit environ 4 milliards de personnes. Ce chiffre, déjà frappant en soi, illustre une dynamique propre au capitalisme contemporain. Les inégalités ne sont pas qu'un résultat indésirable du système, mais une structure fondamentale de son fonctionnement. Les marchés mondiaux reposent sur une série de relations sociales structurées par des rapports de propriété et de pouvoir asymétriques entre les personnes et les pays. Le système ne fait pas que concentrer la richesse une fois qu'elle est produite, il crée de la richesse sur la base de rapports sociaux inégaux. La richesse des uns dépend de la pauvreté des autres. L'un des constats les plus préoccupants du rapport réside justement dans cette mise en parallèle de l'augmentation de la richesse des milliardaires et de la progression de l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Les données présentées indiquent que ces deux phénomènes suivent des trajectoires similaires. Alors qu'une fraction infinitésimale de la population mondiale voit sa richesse croître de manière exponentielle, des centaines de millions de personnes basculent ou demeurent dans des situations de précarité alimentaire. Cette relation n'est pas fortuite. Le système privilégie la maximisation du profit plutôt que la satisfaction des besoins fondamentaux et l'accès aux nécessités dépend de la capacité de payer et non d'un droit humain. De l'économique au politique. L'évolution récente de la fortune des milliardaires renforce ce diagnostic et ouvre également sur les dimensions politiques du problème des inégalités. Depuis la seconde élection de Donald Trump en novembre 2024, la richesse des milliardaires a augmenté à un rythme 3 fois supérieur à la moyenne observée au cours des 5 années précédentes. Cette accélération ne peut être comprise indépendamment des choix politiques favorables au capital, déréglementation, baisse d'impôts sur les hauts revenus et le capital, affaiblissement des mécanismes de redistribution et du pouvoir de négociation du travail. Aux États-Unis, la convergence entre les intérêts des milliardaires de la tech et les politiques économiques de l'administration Trump illustre également cette dynamique. Le rapport met ainsi en lumière l'imbrication étroite entre la sphère politique et les inégalités économiques. Ces inégalités économiques ont également des conséquences majeures sur les processus démocratiques. Le rapport d'Oxfam montre que les milliardaires ont environ 4000 fois plus de chances d'occuper un poste politique que les citoyennes et citoyens ordinaires. Cette surreprésentation des élites économiques dans les sphères du pouvoir contribue à orienter les politiques publiques en fonction de leurs intérêts propres. Dans un tel contexte, les institutions démocratiques tentent à fonctionner de manière formelle, tandis que leur substance, l'égalité politique et la souveraineté populaire, s'érode progressivement. Les données comparatives présentées dans le rapport renforcent ce constat. Les pays caractérisés par les niveaux d'inégalité économique les plus élevés présentent un risque 7 fois plus important de voir leur démocratie s'affaiblir que ceux où les inégalités sont les moins prononcées. Loin d'être un simple enjeu de justice distributive, l'inégalité apparaît ainsi comme un facteur structurel de déstabilisation démocratique. Lorsque de larges segments de la population sont exclus des bénéfices économiques et privés de toute influence politique réelle, la confiance envers les institutions décline, ouvrant la voie à des formes politiques autoritaires. Contrôle, répression et délégitimation. Dans ce contexte, l'argument selon lequel le capitalisme contemporain engendre des formes politiques autoritaires mérite une attention particulière. Plus les inégalités se creusent, plus le maintien de l'ordre social existant requiert des dispositifs de contrôle, de répression et de délégitimation des revendications populaires. Par exemple, les discours anti-immigration, de ce point de vue, peuvent servir de diversion afin de canaliser la grogne populaire, non pas envers les classes dominantes, mais envers des boucs émissaires vulnérables. La montée des droits autoritaires dans de nombreux contextes nationaux peut ainsi être interprétée non pas comme une rupture avec le système économique dominant, mais comme l'une de ses modalités de stabilisation politique face à des contradictions internes croissantes. En dernière analyse, le récent rapport d'Oxfam met en évidence un enchaînement préoccupant. Concentration extrême de la richesse, aggravation de la précarité matérielle, captation du pouvoir politique et érosion démocratique. Le rapport invite donc à dépasser une lecture strictement morale ou technocratique des inégalités. Celles-ci ne sont pas de simples excès qu'il suffirait de corriger à la marge par des ajustements fiscaux. Elles constituent le produit normal d'un système économique fondé sur l'exploitation et la précarité du plus grand nombre et la subordination de la démocratie aux intérêts économiques. Dans ce cadre, la défense de la démocratie ne peut se limiter à la protection des procédures électorales. Elle suppose également une transformation plus profonde des structures économiques qui conditionnent l'exercice effectif de la citoyenneté. Résister à la montée des autoritarismes implique dès lors de s'attaquer aux causes structurelles de ces dynamiques. Cela passe non seulement par des politiques de redistribution ambitieuses, mais aussi par le développement de formes d'organisation économique et sociale alternatives au capitalisme, plus à même de mettre l'économie et le travail au service des besoins de tous et toutes, plutôt qu'à l'accumulation privée des richesses par une poignée de milliardaires. C'était « Les inégalités économiques croissantes pavent la voie à la montée des autoritarismes », un texte de Jonathan Martineau, paru le 29 janvier 2026 dans La Conversation.
Les micro-organismes des glaces accélèrent le réchauffement climatique. Un texte de Pauline Gravel, paru le 3 février 2026 dans Le Devoir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les glaces des zones polaires hébergent des communautés de micro-organismes qui, à mesure que ces glaces fondent, s'activent et libèrent des gaz à effet de serre, GES, susceptibles d'accélérer le réchauffement climatique. Dans une étude publiée dans Nature Reviews Microbiology, des chercheurs de l'Université McGill démontrent que ces micro-organismes constituent ainsi un facteur qu'il serait important de considérer dans les modélisations de l'évolution du climat. On retrouve tous les types de micro-organismes du vivant dans les glaces des régions polaires, des virus, des bactéries, des archées, des unicellulaires sans noyau semblables aux bactéries et des micro-eucaryotes qui possèdent un noyau renfermant leur ADN. Dans les glaciers, beaucoup de ces micro-organismes sont en dormance. Dans les glaces de mer ou les banquises, selon leur épaisseur, on trouve des cellules en dormance, mais certains micro-eucaryotes, tels que les algues de glace, demeurent actifs, notamment dans les couches inférieures, plus particulièrement à l'interface entre la glace et l'eau sur laquelle elles flottent, ainsi que dans les canaux de saumure à l'intérieur de la glace qui contiennent une eau d'une salinité supérieure à celle de l'eau de mer. Dans le pergélisol, on trouve surtout des bactéries et des archées qui sont dans un état de latence, décrit Nastasia Freria, postdoctorante en microbiologie polaire de l'Université McGill, dans le laboratoire du professeur Lyle White. À cause du réchauffement climatique en cours, on a cette fonte de la glace, que ce soit sur les glaciers, les pergélisols ou la glace de mer. Les micro-organismes qui étaient en dormance dans cette glace vont alors être réveillés. De plus, davantage de nutriments deviennent disponibles pour ces micro-organismes avec le ruissellement de l'eau provenant de la fonte de la glace sur le pergélisol. Et cette eau liquide permet à son tour un plus grand accès à l'oxygène pour les micro-organismes qui en ont besoin. Compte tenu de ces différents apports en nutriments et en oxygène, tous ces micro-organismes qui se réveillent voient leur activité s'accroître. Plus la température s'élève, plus leur métabolisme sera rapide. Or, quand leur métabolisme est en action, cela produit du gaz carbonique, CO2, et du méthane, surtout du méthane par les archées présentes dans le pergélisol et du CO2 par les bactéries, explique Mme Freria. L'augmentation de l'activité des micro-organismes génère aussi une production accrue de nutriments qui découle de la dégradation des micro-organismes qui meurent. Tout va augmenter, l'activité des micro-organismes, la production de nutriments, ainsi que celle de gaz à effet de serre. Une partie du CO2 produit par certains micro-organismes pourra être utilisée par le phytoplancton, comme les microalgues, pour faire la photosynthèse et produire de l'oxygène. Mais l'abondance de nutriments dans l'eau pourra entraîner une trop grande prolifération de ces algues qui, en bout de ligne, réduira l'échange des gaz entre l'atmosphère et l'eau et fera en sorte qu'il y aura moins d'oxygène dans l'eau. Les organismes qui ont besoin d'oxygène mourront par asphyxie, ajoute la chercheuse. Tous ces changements induits par le dégel des glaces auront des répercussions majeures sur le cycle mondial du carbone, affirme Scott Sugden,
co-auteur de l'étude et doctorant au laboratoire de microbiologie polaire de l'Université McGill. Mercure et méthane. Les chercheurs font également remarquer que le dégel des sols, qui risque de s'accentuer sous l'influence d'une activité microbienne accrue, aura aussi pour conséquence de libérer les contaminants, notamment le mercure et le méthane, qui étaient emprisonnés dans le pergélisol. Depuis la dernière ère glaciaire, le mercure présent naturellement dans l'atmosphère et qui est issu notamment des éruptions volcaniques s'est déposé sur l'Arctique. Les plantes l'ont absorbé durant leur croissance, mais il s'est retrouvé piégé dans la glace au sein de cette matière organique végétale. Le pergélisol représente ainsi un gigantesque réservoir de stockage depuis des millénaires. Lorsque le sol dégèle, cette matière organique commence à se décomposer sous l'action de l'eau et des microbes, relâchant ainsi le mercure qu'elle contenait, explique Nastasia Freria. Une fois libéré dans l'eau de ruissellement, ce mercure se transforme en méthylmercure, une substance neurotoxique qui s'accumule dans les organismes qui l'absorbent. Sa concentration s'amplifie à chaque niveau de la chaîne alimentaire. Il finit par être ingéré par les humains lorsqu'ils consomment du poisson, poursuit la chercheuse. Les auteurs de l'article soulignent qu'il ne faudrait pas négliger l'impact que peuvent avoir ces populations microbiennes présentes dans la glace dans les modèles de projection climatique, étant donné qu'un contexte de réchauffement climatique réactive ces micro-organismes qui vont alors accélérer la libération de gaz à effet de serre. Il est vrai que la microbiologie polaire est une science assez récente. Les chercheurs ne disposent de données sur la diversité microbienne dans ces contrées glacées que depuis une vingtaine d'années, soit depuis qu'ils disposent des techniques de séquençage de l'ADN, souligne la microbiologiste polaire. De plus, la difficulté d'accès aux régions arctiques et antarctiques, ou même alpines, ainsi que le manque de financement à long terme, a limité la prise de données. Or, pour créer des modèles de prédiction, il faut prendre en compte beaucoup de données biologiques, chimiques et physiques. Il faut avoir une bonne connaissance des conditions dans lesquelles ces micro-organismes survivent. Il faut connaître les tendances de ces micro-organismes par saison et par année, à savoir par exemple s'ils ne sont actifs que l'été et dorment l'hiver, souligne Mme Freria. Et pour connaître ces tendances, il faut poursuivre la prise de données sur de longues périodes. Un financement à long terme est donc nécessaire. C'était « Les micro-organismes des glaces accélèrent le réchauffement climatique », un texte de Pauline Gravel, paru le 3 février 2026 dans Le Devoir.
Tirer des leçons des feux de forêt de 2023. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 18 janvier 2026 dans Le Devoir. L'été 2023 restera dans les mémoires pour de bien mauvaises raisons dans le nord du Québec, alors que des feux de forêt sans précédent ont forcé l'évacuation de plusieurs municipalités dans des conditions souvent difficiles. Près de 2 ans plus tard, des chercheurs en santé publique tentent de tirer des leçons de la catastrophe. Dès la fin de l'été 2023, qui a vu partir en fumée 45 000 km² de forêt, des chercheurs de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, ont rencontré des intervenants de première ligne impliqués dans l'évacuation de localités éloignées comme Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Chibougamau ou Radisson. On désirait vraiment avoir une perspective à chaud de ce qui s'était passé. Les bons coups, les mauvais coups et ce qu'il y avait à améliorer, raconte Stéphane Perron, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'INSPQ. Les entrevues ont été menées avec des dirigeants municipaux, des membres des services de santé et des représentants d'organismes comme la Croix-Rouge. En compagnie de ses collègues Julien Michaud-Tétrou, Emmanuel Bouchard-Bastien et Marie-Audrey Peel, M. Perron a publié ses conclusions dans la revue savante « Disaster Prevention and Management » fin 2025. Leur constat, la communication avec les citoyens est primordiale dans la gestion de telles situations catastrophiques et les évacuations doivent être mieux planifiées. Contrairement à l'Ouest canadien, par exemple, le Québec était peu habitué à gérer des évacuations d'une telle ampleur face à des incendies de forêt. Pour être transparent, je crois qu'en 2023, on a quand même été surpris par l'ampleur des feux. C'est normal quand vous n'avez jamais fait face à une telle situation. Il fallait rapidement en tirer des leçons pour se préparer pour la prochaine fois, estime Stéphane Perron. Pas égaux devant les feux. L'étude qualitative retient notamment l'attention particulière qui doit être portée aux populations vulnérables lors des évacuations. En premier lieu, les personnes âgées malades ou en perte cognitive. L'article relate par exemple le témoignage d'un travailleur du réseau de la santé dont le père, résidant dans un centre de soins de longue durée, est décédé 3 semaines après les évacuations. Après avoir passé 12 heures dans un fauteuil roulant en route vers le Saguenay, il était complètement déshydraté et inconscient. Les personnes qui ont des troubles cognitifs ont besoin d'être avec des personnes familières dans des environnements bien contrôlés. Il faut planifier leurs soins médicaux et le fait qu'ils vont être désorganisés si on les change de milieu, insiste Stéphane Perron. Le transport sera aussi complexe. Il faut penser à l'hydratation, la nourriture, aux arrêts pour leur permettre de faire leurs besoins. D'autres catégories sont également à surveiller, notamment les personnes défavorisées économiquement, souvent condamnées à être hébergées dans des refuges. Dans la vie, on n'est jamais vraiment égaux. Mais malheureusement, devant la catastrophe, c'est encore pire. Ces vulnérabilités sont vraiment exacerbées en cas de danger, souligne M. Perron. Une meilleure communication. Devant la vitesse fulgurante de propagation du brasier, les routes du nord du Québec ont bien souvent été congestionnées par des résidents tentant de trouver refuge dans le sud de la province. Des bouchons qui sont venus compliquer encore davantage les évacuations. Dans le nord, il n'y a souvent pas 10 routes pour quitter une ville. Ça devient rapidement très complexe si les évacuations ne sont pas planifiées à l'avance, explique M. Perron, qui recommande notamment d'effectuer des simulations afin d'améliorer la préparation des autorités et du personnel soignant. Une bonne communication avec les citoyens est également essentielle, non seulement au moment de l'évacuation, mais aussi dans les jours suivants, pour préparer le retour à la normale. Ça prend une communication multimodale en tout temps pour répondre aux préoccupations des gens et cibler de façon très claire les enjeux auxquels ils font face, illustre le chercheur. Autant de leçons à tirer d'événements parfois traumatiques qui, avec le dérèglement climatique, sont appelés à se multiplier. C'était « Tirer des leçons des feux de forêt de 2023 », un texte de Benoît Valois-Nadeau paru le 18 janvier 2026 dans Le Devoir.